Le bassin méditerranéen est l'un des 10 hauts lieux de biodiversité au monde, un hotspot en mauvais français. C'est également un espace très menacé où les espèces animales et végétales sont soumises à de fortes pressions, humaines notamment, mais aussi à de nouvelles concurrences. De nouvelles espèces ont été introduites et menacent la faune et la flore locale. Alors quelles sont ces menaces qui pèsent sur l'environnement de notre région? Comment peut-on agir concrètement pour préserver la biodiversité? On en parle aujourd'hui dans Commune Planète avec l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement.
Commune Planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
Bonjour Corinne Dragon, vous êtes chargée de mission pour l'Observatoire régional de la biodiversité. Nous sommes également en compagnie de Cynthia Lass, chargée de mission et coordinatrice du projet Life Habitat Calanque. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Corinne Dragon, je commence avec vous. Alors déjà, qu'est-ce que l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, quelle est sa mission dans notre région?
Alors, l'ARBE, c'est une agence publique qui a 40 ans d'existence. Et sa mission principale, c'est de mobiliser tous les acteurs et les territoires dans la transition écologique et la prise en compte de la biodiversité.
Elle s'appuie sur quatre axes.
Alors on a quatre grands domaines d'intervention. L'accompagnement des territoires, des collectivités, via du conseil, de la formation ou des labels. La sensibilisation et l'information sur la biodiversité et l'environnement. On anime également des réseaux de gestionnaires. Et on améliore et on valorise aussi les connaissances disponibles sur la biodiversité. Et enfin, on coordonne des programmes de coopération.
Alors, notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait partie des espaces de biodiversité très riches. Corinne Dragon, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit état des lieux de cette biodiversité dans notre région?
Oui, alors à l'échelle du bassin méditerranéen, on fait partie d'un point chaud de la biodiversité sur la planète. Ça se matérialise par une forte diversité en espèces et aussi une belle proportion d'espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qu'on va trouver nulle part ailleurs sur le territoire, sur la planète. Et également une biodiversité qui est confrontée à de fortes pressions. À l'échelle de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a une biodiversité exceptionnelle avec une grande diversité en milieu, qu'ils soient marins, littoraux, terrestres ou aquatiques. Et puis une grande diversité en espèces. On est d'ailleurs la première région de France métropolitaine en nombre d'espèces présentes sur notre territoire. On a par exemple 85% des espèces d'oiseaux nicheurs de France métropolitaine qui sont présentes sur notre territoire. Et puis notre territoire, il abrite également des espèces que l'on trouve nulle part ailleurs en France métropolitaine, comme la tortue d'Hermann, l'unique tortue terrestre de France qu'on va trouver dans le Var. Si on s'intéresse aux chauves-souris, eh bien 34 espèces vivant en France métropolitaine, 31 sont présentes sur notre territoire régional.
Alors, comment est-ce que l'Observatoire régional de la biodiversité mesure et suit dans le temps l'évolution de cette biodiversité et de ces espèces concrètement?
Alors, on a décliné dans le cadre de l'Observatoire un indice global qui permet de suivre l'état de santé de la biodiversité en région. Il s'appelle l'indice région vivante. En fait, on a décliné une méthodologie qui existe à l'échelle planétaire. C'est l'indice planète vivante qui est calculé par le WWF. Les résultats, d'ailleurs, sont diffusés tous les deux ans et sont massivement relayés par les médias. Les derniers résultats, c'était en septembre 2020. Et donc, nous, quand on a construit cet indice en région, en partenariat avec la Tour du Valais, c'est un organisme scientifique qui est situé en Camargue. Ça nous permet de dire que sur le pas de temps, alors 2000-2015, la biodiversité se maintient sur notre territoire. Néanmoins, on a des tendances qui sont très contrastées en fonction des grands milieux ou des grands territoires. Par exemple, on a deux situations qui sont particulièrement inquiétantes en région. C'est à l'échelle des milieux agricoles cultivés. Et aussi sur ce que l'on a appelé la Provence intérieure. C'est ce large territoire qui va être au-delà de notre littoral et avant la partie alpine de notre territoire régional, où là, on a vraiment une tendance au déclin de la biodiversité avec les effectifs des espèces sur ces territoires ou sur ces milieux qui déclinent.
Alors, Cynthia Lass, vous êtes coordinatrice du projet Life Habitat Calanque, donc un projet européen. Quel en est le but de ce projet Life Habitat et comment est-ce qu'il est lié à l'action que mène l'ARBE?
Alors en fait, le projet Life Habitat Calanque, donc c'est un projet européen qui est financé à 60% par la Commission européenne. On est 7 partenaires sur le territoire. Il vise à préserver la flore du littoral des Calanques. Donc on a vraiment différentes actions. Donc c'est en lien avec vraiment le travail de la RBE, puisque là on agit, on fait vraiment des opérations concrètes, des actions concrètes pour préserver ce qu'on appelle des habitats naturels. Donc Corinne en parlait, des milieux aussi, voilà, spécifiques, avec des actions spécifiques sur certaines espèces de flore.
Alors, quelles sont ces actions et quelles sont les espèces, la flore visée par ce projet Life Habitat ?
Alors, d'une manière générale, donc, je vais commencer à parler un peu d'habitat, ce qu'on appelle l'habitat naturel dans notre jargon. En fait, un habitat, c'est une zone représentée par un cortège de plantes, plus ou moins, avec des interactions et tout un écosystème. Et en fait, on a différentes catégorisations d'habitat, c'est-à-dire que sur un territoire donné, par exemple le parc national des Calanques, donc territoire d'action du projet Life Habitat Calanque, on a différents types d'habitat et des catégorisations nous, qu'on utilise, c'est un peu le réseau Natura 2000. Alors, je ne sais pas si c'est...
Si vous pouvez nous rappeler en quelques mots, peut-être.
C'est la Commission européenne, en fait, qui travaille sous forme d'habitat. C'est-à-dire que, par exemple, une forêt est un habitat, une prairie est un habitat, ce genre de choses. Et il y a des catégorisations très précises en fonction des espèces qui y vivent. Et on a aussi ce qu'on appelle des habitats d'intérêt communautaire. Donc ça, c'est...
où plusieurs espèces interagissent,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, où il y a un intérêt très particulier, ce qu'on appelle communautaire, au niveau de la communauté, justement, et le cortège d'espèces qu'elle représente. Donc, par exemple, dans le cadre du projet Life Habitat Calanque, on travaille sur ce qu'on appelle l'habitat frigane. Donc, en fait, c'est un habitat qui est entre les premiers... Sur la frange littorale, qui est entre les 10 mètres et les 100 mètres.
Voilà, rapport à l'eau ?
Par rapport à la mer. D'accord. Il y a 3 espèces structurantes qui sont vraiment des bons indicateurs de la santé de cet habitat-là. On a l'astragale de Marseille, on a le plantain subulé et on a la timélée tartonraire, qui sont toutes les 3 des plantes protégées. Dans le cadre du projet Life Habitat Calanque, on agit particulièrement sur 2 d'entre elles, l'astragale de Marseille et le plantain subulé.
Alors, si on ne se rend pas compte l'impact qu'ont ces plantes sur le milieu, pourquoi est-ce que c'est important de les préserver, en fait, et déjà spécifiquement celles-ci
et... C'est vraiment préserver la flore du littoral des Calanques. Et en fait, elles sont vraiment représentatives, ces espèces-là, du littoral, de la flore du littoral des Calanques. Et comme je disais, on dit que ce sont des espèces structurantes. Les protéger, elles, ou les préserver, en tout cas, préservent un ensemble d'espèces aussi qu'il y a autour, tant de la faune que de la flore, parce qu'on sait qu'il y a des interactions et ça fait partie d'un écosystème.
Alors, donc, le parc national des Calanques a été sélectionné pour ce premier projet européen Life Habitat. Pourquoi est-ce que c'était un environnement intéressant ? Pourquoi le parc national des Calanques a-t-il été retenu plutôt qu'un autre ? Pourquoi est-ce que cet espace naturel est si particulier et si intéressant ?
La manière dont ça fonctionne, on va dire, dans le montage de projet, c'est que c'est un ensemble de partenaires qui se disent, bon, ben voilà, là, il y a une problématique, il y a des menaces, il y a un déclin, comme le disait Corinne, sur certains habitats, sur certains territoires spécifiques. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, donc, ces structures-là, on est 7, hein, je peux les citer, il y a la ville de Marseille, le parc national des Calanques, la RBE qui pilote l'ensemble du projet, il y a le Conservatoire botanique national méditerranéen, il y a Aix-Marseille Université, le Naturoscope, qui est une association de sensibilisation à l'environnement, et on a le département des Bouches-du-Rhône. Donc en fait, on a ces 7 structures qui se sont rejoints et qui ont dit voilà, allez, travaillons ensemble, trouvons des financements, parce que là, en fait, le déclin est tellement grand qu'il faut vraiment qu'on agisse vite. Pourquoi ce territoire-là ? Parce qu'il est très menacé, l'astragale de Marseille sur le continent est en déclin, les populations d'astragale de Marseille. Le plantain subulé, c'est la même chose sur le Frioul. Et d'une manière générale, ces habitats-là se dégradent vraiment de plus en plus. On a décidé d'agir et de mettre en place des actions sur 5 ans et demi. Donc le projet a commencé en 2017 et va se finir en 2022.
Donc là, on touche à la fin. Ça fait déjà près donc 4 ans que ce projet est en cours. Quelles sont les actions que vous pouvez mener pour préserver des plantes comme par exemple le plantain subulé? Par exemple, l'archipel du Frioul était boisé avant, toutes les tentatives de reboisement ont échoué. Qu'est-ce que vous menez comme action sur des petites plantes comme le plantain subulé ou l'astragale de Marseille pour les préserver?
Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'arbres qu'il n'y a pas de biodiversité.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, parce que ce n'est pas vert considère oui. qu'en fait c'est un habitat qui se dégrade et c'est pas le cas. C'est-à-dire que sur le Frioul par exemple, si les arbres ne poussent pas, c'est que le milieu n'est pas adapté.
Ne l'est plus.
Et aujourd'hui, voilà, on a des espèces et le Frioul d'ailleurs est très riche au niveau de ces espèces-là. Le plantain subulé, donc, il pousse, tout comme l'astragale de Marseille, et le plantain subulé est en déclin. On n'a pas toutes les réponses et c'est pour ça aussi qu'on fait des projets et qu'on mène des actions. Donc, en fait, le Frioul, il a deux grandes actions du projet LIFE. Il a des réaménagements de sentiers, c'est-à-dire pour limiter la divagation des visiteurs et un peu orienter justement le public vers des sentiers existants parce que bah, plus on piétine à l'extérieur des sentiers et plus on risque d'abîmer les plantes, etc. Et c'est un cercle vicieux. Donc là, on a fait des réaménagements de sentiers. Donc par exemple, des murets, on a mis des emmarchements, on a mis des petites pierres pour vraiment indiquer aux visiteurs que c'est par là qu'il faut qu'ils passent. Et ensuite, on a travaillé aussi sur le plantain subulé. Donc, pour un peu redynamiser les populations de plantains sur le Frioul, donc on a fait ce qu'on appelle une pépinière conservatoire. C'est-à-dire qu'en fait, donc avec les autorisations, etc., parce qu'on est dans un milieu protégé, donc c'est pas si simple que ça, on a récolté des graines qu'on a mis en culture, donc de plantains subulés, qu'on a mis en culture dans une pépinière, et ensuite qu'on a replanté au niveau de cette pépinière pour avoir un pool génétique, on va dire, et des graines accessibles. Elles sont toutes au même endroit et elles sont accessibles. Et ça nous permet vraiment de les entretenir, on va dire, beaucoup plus facilement et d'avoir une banque de graines. Voilà, c'est ça que je voulais dire, une banque de graines accessibles et vivantes. En parallèle, on a mis en culture donc des plantains aussi qu'on a replantés dans le milieu naturel. Voilà, sur trois sites distincts où il existait déjà du plantain subulé pour essayer de rebooster un peu tout ça.
Et donc, vous nous avez parlé d'espèces invasives qui sont l'une des très fortes pressions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'espèces qui déséquilibrent notre écosystème et qu'est-ce qu'on peut faire contre ces plantes invasives ?
Alors, il y en a à peu près 80 sur le territoire des Calanques. Peut-être que Corinne pourra en parler un peu plus d'un point de vue régional. Mais en tout cas, sur le territoire du Parc national des Calanques, il y en aurait 80. Le Life Habitat Calanque se focalise sur 4 d'entre elles qui sont très problématiques à l'échelle mondiale. Pour avoir voyagé, il n'y a pas qu'ici que c'est un problème. Et on a l'Oponce ou Figuier de Barbarie. Donc, c'est un cactus très connu et apprécié. Donc, ce n'est pas d'ici. on a l'agave d'Amérique, une espèce qui est utilisée dans les jardins, etc., qui est même vendue par les jardineries, qui est une plante exotique envahissante. On a la griffe de sorcière, ces belles fleurs jaunes ou magenta, fuchsia, sont exotiques envahissantes. Et ensuite, on a la luzerne arborescente, qui est un buisson avec des fleurs jaunes, qui est un peu moins connue, mais qui est très répandue dans les Calanques.
Alors, une question peut-être un peu simple, oui. Mais si ces plantes s'adaptent facilement à notre milieu, pourquoi est-ce que c'est un problème qu'elles remplacent des plantes peut-être plus faibles? C'est voilà, une question simple, mais on se dit, bon, si elles sont bien adaptées, pourquoi est-ce que c'est un problème?
Alors, une plante exotique envahissante, déjà, qu'est-ce que c'est?
Oui.
C'est donc une plante exotique, c'est-à-dire qu'elle vient d'ailleurs. Donc, souvent, elle a été volontairement ou involontairement introduite par l'homme, avec des échanges commerciaux, etc. Enfin voilà, échappée des jardins, elle se retrouve en milieu naturel. C'est là où ça pose problème, hein, c'est en milieu naturel. Et envahissante, c'est-à-dire qu'elle se propage et prolifère très très rapidement. Donc ça, c'est la combinaison des deux qui est une problématique. Une plante exotique toute seule n'est pas forcément un problème.
C'est et quand ensuite, elle est envahissante, en fait.
Voilà,
en
c'est
plus.
Exotique et envahissante que ça pose problème en milieu naturel. Et pourquoi? Alors oui, c'est une bonne question, hein, savoir, elles sont là, elles se dispersent, c'est cool, donc pourquoi pas. Mais en fait, il y a plusieurs impacts. D'une, elles prennent les ressources et l'espace pour les plantes locales. C'est-à-dire que plus il y a de plantes exotiques envahissantes, moins il y a de plantes locales et moins il y a de biodiversité. C'est-à-dire que ça se propage tellement rapidement qu'il n'y a que ça. On peut en venir avec des paysages, ce qu'on appelle monospécifiques, avec une seule espèce. Et ça, il y a deux problèmes qui se... Enfin, Corinne pourra peut-être compléter. Mais il y a deux problèmes, c'est que d'une, du coup, l'habitat ou le milieu naturel devient beaucoup moins résilient au changement. C'est-à-dire que plus on a d'espèces et plus du coup il y a d'interactions et plus on réagit, on peut être résilient au changement. Et l'autre problème, moi, que je vois aussi dans les Calanques, c'est que l'accessibilité, c'est-à-dire que ces plantes-là, clairement, l'oponce, l'agave, ça pique, c'est pas chouette. Donc si on veut ça sur le littoral, on pourra plus y avoir accès.
On se retrouve dans quelques instants. On écoute tout de suite une chanson incontournable quand on parle de notre région, Le Sud, de Nino Ferré.
Thank you. qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement une million d'années, et toujours en été. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie surprend plus d'un million d'années, et toujours en été.
Comme une planète, Nina Pavan, Dialogue RCF.
Vous écoutez Comme une planète sur RCF. Aujourd'hui, nous parlons de la biodiversité en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cynthia, je vous relance tout de suite sur les populations locales. Donc, le parc national des Calanques est accolé à une très grande métropole. Donc, ça, est-ce que ça pose des problèmes spécifiques d'avoir un espace naturel qui est alors déjà très fréquenté l'été, 3 millions de visiteurs en 2020, l'année des confinements quand même, et voilà, une métropole qui, à l'année, a beaucoup de gens. Quels sont les projets à entreprendre? Quelle est la sensibilisation à mener avec un espace naturel accolé à une métropole aussi peuplée?
C'est un très gros challenge pour nous. On fait vraiment ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a fait des réunions publiques pour rencontrer les habitants. Alors, notre cible principale, ce sont les habitants, les visiteurs, certes, aussi. On est passé dans les médias, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est passé à la télévision. Enfin, on a essayé de faire une communication très, très large sur les problématiques. Donc, on a fait des chantiers participatifs dans le cadre d'arrachage, justement, de plantes exotiques envahissantes. Donc, on a invité aussi les gens à venir nous aider, à rencontrer, voir les problématiques, à agir avec nous, vraiment. On a fait des consultations. Ce que j'entends, c'est quand on prend des décisions, par exemple, pour les réaménagements, on a associé des associations. Pour choisir quel type d'aménagement on allait faire. Et ça, tout au long, on fait des publications aussi. Là, par exemple, ce mois-ci, on a participé aux journées des plantes d'Albertas. Donc, on a eu un stand à Bouc-Bel-Air. On a fait aussi des stands et des rencontres à différents endroits. On en a fait un à Samina, à La Ciotat, au Frioul, pour les habitants, pour les sensibiliser. On a fait des distributions de plantes locales, justement, par rapport aux plantes exotiques envahissantes. Donc, voilà, on essaye. On a un Facebook.
Parce que j'imagine qu'avec les populations locales, quand on se dit on veut préserver l'environnement et qu'on vient arracher des plantes, j'imagine qu'au début, ça doit être un peu déstabilisant.
Oui, je pense. C'est pas compris. C'est pas souvent compris à juste titre. Il y a un manque. Une chose qui a été identifiée aussi dans le cadre du projet, c'est un manque de connaissances générales aussi, tant des habitants, aussi d'un point de vue des gestionnaires, des scientifiques, on ne connaît pas tout, c'est normal. Donc, c'est, comme je le disais, ces projets-là, ils permettent aussi d'en apprendre plus, de savoir, d'orienter un peu plus après les décisions, donc c'est super important. Et oui, on essaye de, au maximum de sensibiliser et de tenir informé, tant sur les... la communication et les connaissances générales que sur vraiment les actions du projet LIFE. Et on essaye aussi de mettre en avant une communication qu'on appelle engageante. C'est-à-dire vraiment d'inciter... C'est d'engager les gens en faveur de la biodiversité d'une manière générale.
Je vais vous lancer sur une autre question. L'Observatoire de la biodiversité s'intéresse également à un phénomène particulier qui s'intensifie avec les années, malheureusement. Ce sont les nuits tropicales. Corinne Dragon, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce phénomène ? Qu'est-ce que c'est une nuit tropicale ?
Alors, c'est très simple. Une nuit tropicale, c'est une nuit où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. Voilà, donc c'est pas spécialement agréable. Et puis, ça impacte aussi quand même notre santé. Donc ça, c'est en lien avec le réchauffement climatique hein, qui est à l'œuvre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi à l'échelle de l'ensemble de notre planète. Hein. Et effectivement, les suivis menés par Météo France ont montré, par exemple sur la ville de Nice, qu'on était passé d'une quinzaine de nuits tropicales dans les années 60 à près d'une soixantaine aujourd'hui. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis voilà, les tendances sur ces 30 dernières années, même plus, hein, sur ces 35 dernières années, ont montré vraiment un signal très net hein, sur une hausse des températures qui est particulièrement marquée, notamment sur les températures estivales. Sur les précipitations, c'est un peu plus aléatoire. Néanmoins, on a une tendance à une augmentation de l'intensité des épisodes méditerranéens.
Comme donc on a ça, vu cette année, malheureusement.
Voilà, effectivement, hein, c'est pas sans risque. Et tout ça, ça impacte aussi la biodiversité, hein, les milieux, les espèces. Alors ça se voit bien en mer, par exemple, avec des espèces qui sont plutôt du sud de la Méditerranée, qui remontent maintenant à la faveur du réchauffement des eaux marines. Hein. Donc maintenant, on peut observer à Port-Cros ou dans les Calanques ou dans le parc marin de la Côte Bleue des barracudas ou des girelpans. Et puis, c'est aussi des espèces qui souffrent, notamment en mer, des espèces qui vont plus être adaptées à des eaux froides, comme la gorgone blanche, qui est suivie au niveau du parc national de Port-Cros, où effectivement elle est très affectée par la hausse des températures en mer. Ça lui provoque des nécroses en fait, et du coup ça limite son espérance de vie. Ça se voit en mer, ça se voit aussi sur terre. Hein. Il y a un vaste programme qui est déployé à l'échelle alpine, qui s'appelle Sentinelle des Alpes. Donc il y a une partie de notre territoire en région qui est concernée. Hein. Et là, les suivis ont montré que les Alpes verdissent. En fait, les milieux ouverts d'altitude, c'est-à-dire ces milieux qui sont situés au-dessus des forêts, eh bien, ont tendance à verdir, puisque les conditions climatiques y deviennent favorables au développement de la végétation.
Et donc j'imagine que c'est un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que les températures augmentent, par exemple les montagnes verdissent ou la mer se réchauffe, donc d'autres espèces peuvent s'y adapter et c'est un serpent qui se mord la queue, après on a des espèces invasives.
Complètement, puisque des espèces qui ne posent pas problème vont pouvoir élargir leur aire de distribution hein, grâce à cette évolution du climat, mais ça permet aussi à d'autres espèces plus problématiques de pouvoir être présentes sur notre territoire et rentrer en compétition avec nos espèces locales.
Et voilà. Puis on parlait de l'agriculture, ça impacte aussi les plantes exotiques envahissantes peuvent impacter complètement l'agriculture. Et je voulais juste rebondir sur cet équilibre-là en fait. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment une question d'équilibre. Et qu'au vu du changement climatique ou global en tout cas qui se fait en ce moment, c'est super compliqué pour tout le monde d'essayer de trouver le bon équilibre et justement de savoir connaître les bonnes actions à faire en faveur de notre biodiversité locale. Quoi.
Alors exactement, c'était ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire, tout en chacun, nos auditeurs qui nous écoutent, pour préserver la biodiversité ? Alors soit quels sont les ateliers, les actions que mène la RBE ? Et sinon, quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut connaître ? Par exemple, est-ce qu'il faut mettre, je ne sais pas, des maisons à insectes sur nos balcons, dans nos jardins, des nichoirs ? Voilà.
Alors moi, je vais répondre dans le cadre un peu du projet LIFE, d'une manière générale. Et enfin, qui concerne tout le monde, hein, c'est des choses un peu générales. Bah, déjà, favoriser les plantes locales, donc se renseigner. Comme disait Corinne, en fait, le Conservatoire botanique national méditerranéen, qui est référent sur la stratégie des plantes exotiques envahissantes, a un site internet, ça s'appelle InvMed, I-N-V-M-E-D. Point, qui référence toutes les plantes exotiques envahissantes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc en fait, vous mettez le nom commun dessus, pof, et vous dites si c'est le risque est majeur, si le risque et si déjà cette espèce fait partie de la liste d'espèces. Donc vous savez déjà ce que vous achetez, est-ce que c'est bien, pas bien, vous pouvez mettre le nom dessus. Donc ça, je trouve ça super intéressant et super utile. Donc privilégiez ça. Ensuite, j'ai envie de dire d'une manière générale, pour les océans et pour le sol, privilégiez des produits ménagers plus écologique, d'une manière générale, pour limiter les tensioactifs dans la mer. Et d'ailleurs,
donc, les tensioactifs,
des éléments qui se retrouvent dans les produits ménagers, qui se trouvent dans la mer et qui ne sont pas gérés forcément par les stations d'épuration. Un exemple concret, en fait, dans les calanques, c'est que les embruns, donc salés, on en a, les embruns salés, naturellement, qui se retrouvent sur les plantes, en fait, sont pollués de tensioactifs. Et tensioactifs, en fait, c'est un peu des savons. Donc, les plantes du littoral, elles ont sur leurs feuilles une couche protectrice grasse contre le sel. Donc, les embruns, ils viennent. Les tensioactifs, qui est un peu comme un savon, en fait, viennent grignoter cette couche grasse, hein, parce que c'est le travail du savon. Et ensuite, du coup, rend perméable ces feuilles au sel. Ça se nécrose et ça meurt. Donc, on ne se rend pas compte, hein, mais en fait, ce qu'on jette dans la mer a un impact direct sur la terre.
Et puis, vous pouvez aussi partir à sa découverte. Hein.
Ouais.
Vous pouvez partir à la découverte de notre patrimoine naturel. À l'agence, on coordonne un site internet qui s'appelle leschemindelabiodiversité.com et qui va référencer, en fait, toutes les sorties nature, ateliers, expositions qui sont déployées sur le territoire en région par nos gestionnaires d'espaces naturel protégé. Et donc, vous pouvez, en solo, en famille, en duo, participer à ces événements-là, aussi bien avec des activités aussi bien sur terre, hein, comme en mer. C'est aussi en s'appropriant, quelque part, notre patrimoine vivant qu'on devient plus sensible aussi pour participer, pour le prendre en compte dans son quotidien.
C'est un parfait mot de fin. Merci à vous deux d'avoir été nos invités dans Commune Planète sur RCF. Corinne Dragon, chargée de mission pour l'Observatoire Régional de la Biodiversité, et Cynthia Lass, chargée de mission, coordinatrice du projet Life Habitat Calanque. Merci à Gaëlle Barrera du Conseil diocésain Laudato aussi pour la préparation de cette émission, que vous pouvez retrouver en replay sur rcf.fr et toutes vos applications de podcast.